fois, nous avons eu des belles et longues lectures. Je vais tâcher d'être bref. La question qu'on peut se poser ce soir avec ce rappel de la résurrection de Jésus, voilà, c'est que devenons-nous dans cette résurrection? Pourquoi est-ce que cet événement, il est encore impactant, voilà, engageant pour notre vie? Alors, avec les 12 catéchumènes qui vont être baptisés, avec nous tous qui désirons avancer sur le chemin du Christ, eh bien, il y a trois facettes que je vous invite à vivre. D'abord, d'être des êtres libres pour être, voilà, finalement face au monde des enfants de Dieu. Toute société, par sa culture, par son influence, elle porte sa part aussi d'ombre et de ténèbres. Toutes nos propres vies humaines, blessées aussi certainement par telle ou telle facette de notre nature, a sa part d'ombre elle-même. Jésus, lui, eh bien, il a déchiré, il a cassé la coque d'enfermement qui existait et qui nous empêchait de pouvoir trouver le chemin de liberté, le chemin d'élévation. C'est cela que nous vivons avec ce geste de la lumière, au milieu des ténèbres, la lumière jaillit et nous éclairant, elle nous permet d'avancer. C'est ce que nous avons rappelé avec la traversée de la mer Rouge. Parfois, quand des gens l'entendent pour la première fois, l'année dernière, je sais qu'il y avait des gens qui m'avaient dit « Vous êtes bizarre de pouvoir proclamer comme cela dans votre assemblée le massacre de toute une armée. » En effet, c'est bizarre. Nous le spiritualisons, bien sûr. C'est toutes les ennemis intérieurs, les ennemis spirituels qui nous sont ainsi du coup dépassés et que nous sommes invités à pouvoir dominer. Alors, la question, c'est pendant ce temps de carême que chacun d'entre nous a pu vivre, eh bien, quel est le lieu d'enfermement que nous aurions pu découvrir et que nous pourrions présenter au Seigneur? Nous pouvons aussi présenter notre monde et ses guerres, sa violence. Voilà, que cette liberté, eh bien, elle puisse vraiment jaillir à partir des cœurs humains que nous formons ensemble, mais pour ensuite, eh bien, transformer le monde. D'être donc des êtres libres face aux enfermements du monde, mais d'être aussi porteurs de l'honneur de Dieu. Alors, c'est pas très moderne de parler comme cela, mais pourtant, il y a une des oraisons que nous avons dites, voilà, qui disait, Seigneur, voilà, pour l'honneur de ton nom, s'il te plaît, daigne faire cela. En fait, vous allez être marqués par le Saint-Crème, vous les catéchumènes, comme les autres baptisés ont pu l'être. Le Saint-Crème, ça vient signifier l'onction, être oint, voilà, par l'Esprit-Saint. Oint par l'Esprit-Saint, ça veut dire être transformé pour être comme Jésus, voilà, pour être membre de Jésus. Et membre de Jésus, eh bien, c'est l'honneur du Père que Jésus a porté dans sa vie et que nous sommes invités à porter. En fait, il y a un certain paradoxe dans le monde. À la fois, nous avons une vision très individuelle, voire individualiste de la religion. Chacun suit son chemin, chacun fait ses choix et nous n'avons pas à finalement en fait trop envahir l'autre par rapport à ses choix dans ce phénomène-là. Et pourtant, le monde est scandalisé et il vient finalement interpeller ensuite eh bien, notre propre foi face aux scandales qui peuvent émerger parfois parmi les chrétiens dans le monde, dans l'Église. Eh bien, chaque fois, on nous dit « si c'est ça être chrétien, pourquoi donc ?» et tout cela. Et donc finalement, on voit que le fait d'être chrétien, ça intéresse en fait les autres et qu'ils se disent « oui, en fait, il y a quelque chose qui doit être changé dans le monde si toi, tu es chrétien parmi nous. » Donc on voit ce paradoxe-là. Et donc finalement, eh bien, vous tous qui allez être baptisés, nous tous qui le sommes déjà, eh bien, nous sommes invités à nous dire, est-ce que nous sommes prêts aussi à porter ainsi l'honneur de Dieu dans notre société? Les prophètes invités à le penser, et Abraham, finalement, être ces belles figures qui le porte aussi lui-même, cet honneur de Dieu. Montrer la grandeur de Dieu à travers notre conversion, à travers le changement de notre vie. Notre charité, ça sera le repère pour cela. Et plus nous saurons faire de notre charité un moyen d'invention, en quelque sorte, pour trouver comment faire du bien maintenant, et bien plus nous pourrons alors du coup faire grandir notre humanité. Peut-être que nous pouvons, cette semaine, essayer de considérer d'abord le bien apporté à Dieu dans ce que nous faisons, plutôt que de rechercher nos propres intérêts, la prospérité ou la réussite de notre vie. Et puis le dernier point aussi que je voulais méditer avec vous, c'est d'être des garants de la bonne nouvelle pour le monde. Des femmes au tombeau, elles ont été ensuite envoyées par Jésus pour leur dire « Allez dire à mes disciples, à mes amis, que je les attends en Galilée ». C'est ce que aussi dans la lettre aux Romains, Saint Paul nous invite à vivre. Nous sommes là pour porter cette garantie en quelque sorte de la bonne nouvelle. Le monde a besoin d'espérance. Nous l'entendons trop souvent par toutes les différents lieux de tension, les lieux de peur, de crainte qui peuvent habiter notre monde. Les journaux en sont souvent le reflet. Mais nous avons à pouvoir dire au monde que Dieu est fidèle à sa création, que Dieu n'abandonne jamais les siens, mais qu'il a toujours les moyens de les relever. Cette parole-là, cette parole d'espérance, cette bonne nouvelle, c'est ça à chacun d'entre nous ensuite de l'ajuster aux différentes circonstances que nous pouvons vivre et qui seront ainsi du coup à parler avec des personnes concrètes. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, essayons, à la fin de notre carême, d'être des hommes libres, présentant à Dieu ce sur quoi il a besoin d'agir. Soyons aussi porteurs de l'honneur de Dieu dans nos actions dans le monde. Et soyons des garants de la bonne nouvelle et de l'espérance. Amen.